France Inter, Nicolas Demorand, le 7-9.
Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin dans le grand entretien un ancien eurodéputé écologiste avec lequel vous pourrez dialoguer dans 10 minutes au 01 45 24 7000. Bonjour Daniel Cohn-Bendit.
Bonjour Monsieur Demorand.
Le mouvement des Gilets jaunes se poursuit. Les violences dans les cortèges samedi à Paris mais aussi en province ont suscité la sidération dans toute la classe politique. Une crise au sein de l'exécutif. Et cette crise, on va essayer de la caractériser avec vous pour commencer, Daniel Cohn-Bendit. Selon vous, c'est quoi? C'est une crise politique sérieuse, une crise de régime, une crise institutionnelle? Quel mot vous semble le plus juste?
C'est une crise politique dans le sens que le gouvernement et donc aussi le président de la République n'ont pas réussi en fait à être à la hauteur de la campagne présidentielle du président de la République. Le président de la République avait dit « la France va mal, j'ai des idées pour réparer l'économie et pour réparer l'injustice sociale, et visiblement, ils n'ont pas réussi par des mesures concrètes à montrer qu'on va dans cette direction. Il est le champion du monde du « en même temps », et on l'a vu sur le phénomène, enfin ce qui s'est passé avec la taxe énergie, il n'a pas su faire le « en même temps », et c'est ce qui a déclenché une révolte, c'est un couvercle qui s'est ouvert, et tout ce qui, depuis plus de 40 ans, puisque quand Chirac parle de la fracture sociale, c'est 95, il constate la fracture sociale des 10 dernières années avant. Donc je veux dire que cette fracture sociale ressort d'une manière incontrôlée, incontrôlable, de sentiment, on en a marre de cette fracture sociale. Et ça, maintenant, le gouvernement paye 30 ou 40 ans d'incapacité des autres gouvernements, mais il avait promis d'être différent. Et c'est cette crise que nous vivons aujourd'hui.
Et donc quoi? Il n'a pas été assez différent, vous diriez? Emmanuel Macron, dans ses promesses de campagne, c'était de chasser, on se souvient, ces deux mots, le ressentiment et les passions tristes de la France. Comment expliquer qu'aujourd'hui, un an et demi après, il y en a autant de ressentiments? Qu'est-ce qui a manqué? Est-ce que c'est une question de pédagogie ou est-ce que c'est le fond de la politique qui n'était pas suffisamment juste?
C'était le fond de l'idée qui me fascine toujours et qui m'a fasciné, à part l'Europe, ça c'est une autre chose, mais l'idée c'était en même temps libéraliser, parce que je crois que c'est nécessaire d'une économie moderne, et en même temps des nouvelles protections. Et c'est ça qui n'a pas réussi. Donc c'est sur le fond, et donc après la pédagogie ne peut pas être bonne s'il manque quelque chose qu'on puisse expliquer. Donc c'est là où il y a un échec un peu de la politique d'Emmanuel Macron pendant ses premiers 18 mois. C'est là qu'il doit réfléchir, c'est là qu'il doit se remettre en cause. Il en a la capacité, il en a l'agilité, mais il faut qu'il se remette en cause fondamentalement dans sa pratique et ses propositions du pouvoir.
Encore un mot sur le moment. Les Gilets jaunes semblent avoir deux références historiques, 1789 et mai 68. Vous qui avez été une figure de mai 68, est-ce que vous trouvez cela pertinent? Et si ça ne l'est pas, est-ce qu'il faut plutôt regarder peut-être vers le mouvement 5 étoiles en Italie?
En tout cas, je veux dire, si vous comparez à 68, en 68, on se battait contre un général au pouvoir. Les Gilets jaunes, aujourd'hui, demandent un général au pouvoir. Donc, il y a une différence. Je veux dire, à partir du moment où Pierre de Villiers est arrivé, et c'est pas qu'un, parce qu'ils ont quand même un langage commun, et sur plus divers plateaux, on a découvert que tout d'un coup, l'idéal politique des deux Gilets jaunes, et les autres ne disent rien, mais je crois que ça va très loin, disons, c'est un idéal. Ils disent tous, il faut une main forte. Alors, ils disent pas une main forte pour réprimer les... Mais une main forte dans la société, il faut imposer...
Ils disent pas tous ça. Il y en a un qui vous a précédé au micro. C'est d'ailleurs leur problème, c'est qu'ils parlent de manière très diverse.
Il y a deux choses. Hein. Et deuxièmement, jamais en 68, jamais quelqu'un aurait menacé de mort quelqu'un qui voulait discuter. Jamais quelqu'un m'a menacé. Moi, je discutais avec tout le monde. Souvent, on ne voulait pas discuter avec moi. Mais aujourd'hui, et qu'on ne comprenne pas ce que ça veut dire, que s'il y a des gilets jaunes qui veulent négocier et qu'ils n'en vont pas parce qu'ils ont peur pour leur vie, je vous dis, le type de société qui peut émerger de ces tendances, moi, ça me fait peur.
Alors là, la réunion à Matignon est annulée. Ça, c'est les dernières informations. La réunion est annulée faute de participants puisqu'ils ont décliné. Décliné la proposition d'Edouard Philippe.
C'est pas une petite histoire. Hein. Maintenant, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais on l'a vu. J'étais sur le plateau hier à LCI quand on l'a dit, et on l'a dit. Bah, ils ont dit nous, on a peur. On a peur, on a été menacé. Il y a la madame Moreau, elle s'appelle. Toute la nuit, on m'a téléphoné. Je veux dire, vous savez ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'est pas dans une période révolutionnaire. Il faut pas arrêter de trucs, mais on est dans une période de tentation autoritaire. Mmh. Alors, il y a une véritable crise sociale, il y a une véritable problème social, de fracture sociale, d'illégalité, d'injustice dans ce pays, mais il y a aussi une tentation pour répondre à ça, parce que la démocratie n'y a pas réussi, une tentation autoritaire.
Essayons de réfléchir sur comment sortir, puisque c'est la grande question, comment sortir de ce blocage aujourd'hui. Probablement donc tout à l'heure, Edouard Philippe va annoncer devant les députés de La République En Marche un moratoire sur la hausse des taxes sur le carburant. Un moratoire, est-ce que c'est suffisant ?
Non. Non. Alors, je ne sais pas, que c'est peut-être que... Et moi je, franchement, Édouard Philippe doit annoncer le moratoire, d'accord, mais ça ne suffit pas. Donc, c'est au président de la République de dire maintenant où il va aller, où il faut aller. Et moi, je suis absolument sûr que il faut... En même temps, remettre tout sur la table. Alors, je remets tout sur la table. L'ISF, toute la fiscalité. Donc, il faut faire un geste. Il y a aujourd'hui, et ça, c'est véritable, on l'a vu, il y a des gens qui gagnent 1200 des retraités ou une femme seule avec un enfant qui a 1300 qui dit « je n'y arrive pas ». Donc, il faut trouver aujourd'hui. Il a donné 100 euros, par exemple, aux policiers.
Prime exceptionnelle.
Il faut donner une prime exceptionnelle à tous ceux qui, il faut trouver un moyen qui sont au-dessous du SMIC. Deuxièmement, il faut négocier avec les, remettre les corps intermédiaires. Donc, le Grenelle qu'appelait Laurent Berger, appelait ça une table ronde, appelait ça les états généraux, appelait ça un Grenelle, ça m'est complètement égal. Mais, il faut remettre les corps intermédiaires dedans, négocier sur le SMIC et puis, il faut qu'il aille plus loin.
Ça veut dire
cette inégalité en France. Je me répète, parce qu'on fait toujours mai 68. En mai 68, au Grenelle, il y a eu une discussion entre patronat, l'État et le syndicat sur l'échelle des salaires. Les patronats défendaient 1 à 8, le syndicat 1 à 5. 1 à 8. Henry Ford, qui était le capitaliste modèle, qui était pour la répartition. Il disait, une échelle de salaire de plus de 1,40, c'est intolérable.
Et aujourd'hui, on en est
aujourd'hui,
à beaucoup
voilà,
plus.
Si on ne s'attaque pas à cette injustice...
Mais l'ISF a été supprimé, Daniel Cohn-Bendit.
Mais vous savez...
Donc, est-ce qu'il faut le revenir là-dessus?
Alors, il y a Bourg qui propose un ISF
Dominique
vert. Dominique Bourg. Qui propose
philosophe, écologiste.
Un ISF vert. C'est pour ça que moi, je ne veux pas ici... dire, voilà, c'est ça, j'en sais rien, parce que je veux une négociation. Donc, mais je crois qu'il faut rétablir, il faut faire payer à ceux qui ont les épaules larges, donc moi, vous, Madame Salamé, Monsieur de Montréal, il faut nous faire payer plus pour la transition écologique. C'est comme ça, sans ça, on n'y arrivera pas. Ouais. Je sais que ça fait pas plaisir, c'est difficile, et ça va être difficile plus on descend dans l'échelle des salaires et des revenus.
Mais n'est-ce pas trahir la promesse même de ce qu'a été Emmanuel Macron qui disait, et qui a fait, il faut le reconnaître, je fais ce que je dis, moi contrairement à mes prédécesseurs, je ne recule pas, j'ai promis de faire ça, et bien je le fais. Et là vous lui demandez, vous qui l'avez soutenu, au fond de changer de cap, de renoncer à ses promesses, est-ce qu'il ne va pas se trahir lui-même ?
Écoutez, moi je crois qu'en politique, il faut avoir une orientation, un cap, et puis il faut avoir quelque chose qui est très difficile pour nous tous qui ont fait de la politique, c'est la capacité de se remettre en question. Il a fait des choses sur l'Europe, il a fait des choses où je suis d'accord, et il y a des choses, quand ça passe pas dans un pays, il faut être capable de le comprendre. Il faut pas être le premier de la classe toujours. Il faut dire peut-être que même si j'ai raison, il y a des bonnes raisons pour l'ISF, je ne le nie pas, Mais si ça ne passe pas, il faut remplacer, il faut trouver une solution pour qu'il y ait un apaisement face aux inégalités. Et ça, quand il a aucune expérience politique. Il faut dire les choses comme elles sont. Il est arrivé là parce que les autres étaient d'une faiblesse incroyable. C'est pour ça qu'il est passé par un trou de souris. Eh bien maintenant, il découvre l'ampleur de la politique et ce n'est pas une honte. Ce n'est pas une honte de dire « là, je vois qu'il faut faire autrement », ça serait à son honneur. Il ne faut pas faire comme François Mitterrand qui fait l'alliance avec les communistes, les socialistes, les privatisations, c'est la catastrophe économique, il appelle de l'or et il continue à dire « mais c'est la même chose ». Ce qui était un mensonge.
Mais en même temps, Daniel Cohn-Bendit, le président de la République, n'a-t-il pas théorisé lui-même l'exercice solitaire et ultra-vertical du pouvoir? Vous dites qu'il n'a pas d'expérience politique. Il y a tout de même eu une théorie de cette manière de gouverner.
Eh bien, cette théorie était une erreur. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? C'est pas parce que le président a dit, c'est pas parce que j'aime bien le président que je suis d'accord avec lui. Non, il a fait des tas d'erreurs, cette théorisation.
Vous lui dites ça?
Mais bien sûr.
Mais il vous répond quoi? Quels sont les arguments?
Au début, il me disait, mais tu comprends, la France est un pays... Voilà, son problème, moi, ce que je comprends, il arrive au pouvoir. Il y a un général qui lui dit, il comprend rien. Il a 40 ans. S'il fait pas preuve d'autorité, il a perdu tout de suite.
Le fameux général de Villiers.
Ouais, qu'on veut mettre maintenant Premier ministre, ça me fait rigoler, ça. Tout le monde au pas. Allez, hein.
Et aujourd'hui, vous répond quoi quand vous lui dites, il faut te réformer toi-même, puisque c'est ça que vous dites ce matin.
Je veux dire que quand il est sur le porte-avions, il commence à dire, j'ai pas réussi. Il le dit. Donc, il le comprend. Mais c'est difficile, des fois, d'aller contre sa nature. Enfin, c'est même pour des animateurs de radio, ça doit être difficile de temps en temps d'aller contre sa nature. Pour moi, c'est extrêmement facile d'aller contre ma nature parce que j'en ai pas. Non, mais c'est pas grave.
Pour le reste, tout de même, est-ce que vous analysez comme un signe très inquiétant l'ampleur du rejet dont le président de la République est aujourd'hui l'objet?
Oui.
Ça veut dire quoi
l'ampleur du rejet? Démission
à la forme
il faut dire les choses, il faut appeler un chat un chat. C'est on entendait dans les rues Macron à l'échafaud. Je veux dire, je dis pas c'est tout le mouvement. Attention, je suis pas débile, hein. Mais il y a cette tendance de fond qui existe aussi et cette haine quand un député écrit des tribunes de haine, je vous hais depuis juin.
François Ruffin.
Je veux dire, mais vous vous rendez compte où on est? On connaît dans les révoltes ce que la haine a apporté. Vous savez, c'est pas drôle, hein, quand un pouvoir se fait renverser. Et là, on a parlé tout à l'heure de l'extrême droite en Europe. D'abord, je voudrais dire qu'en Allemagne, c'est vrai que l'extrême droite est troisième parti, mais le deuxième, c'est les Verts. Les Verts. Il faut toujours rajouter ça.
Ce qui n'est pas le cas en France.
Ce n'est pas du tout le cas, mais en France, ils sont ridicules. Moi, je voudrais qu'une opposition...
Pourquoi vous dites qu'ils sont ridicules?
Mais écoutez, vous allez aux européennes, où ils disent tous toujours, la mère des problèmes, c'est la transition écologique et sociale. Et ils sont 5 forces politiques qui vont aller seules pour dire la même chose. C'est comme les trotskistes, qui à l'époque avaient le programme de transition... Ils étaient 4 partis trotskistes à penser la même chose, mais c'était des chapelles personnelles. Je veux dire, moi, on a besoin en France d'une opposition responsable, capable d'être une alternative.
Daniel Cohn-Bendit, est-ce que cette crise actuelle révèle une crise plus profonde de la Ve République? Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron sera le dernier empereur de la Ve République et qu'à un moment, cette constitution qui a été faite pour un homme, le général de Gaulle, dans une circonstance particulière, la guerre d'Algérie, aujourd'hui, il faut sans doute, peut-être, ou pas du tout, penser à la changer?
Moi, je pense qu'il faut la faire évoluer, mais attention au problème. La personnalisation, par exemple, en Allemagne, c'est la même chose. C'est Merkel démission. Toute la droite, les mouvements Pegida, qui étaient des mouvements forts, c'est exactement la même personnalisation, alors que c'est toute autre constitution. Donc, évidemment que je crois. Moi, je crois qu'il faut faire évoluer cette Ve République. L'introduction de la proportionnelle est une nécessité, mais ça créera d'autres problèmes. Si vous avez une proportionnelle, vous n'avez pas des forces centrales, vous avez une balkanisation, et c'est un peu le problème de l'Allemagne aujourd'hui.
Mais oui, c'est un piège, c'est-à-dire la Ve République assure la régularité et casser cela.
Ça peut être la balkanisation. Mais je suis pour la proportionnelle. Je dis simplement, il ne faut pas croire que tout est facile.
On passe au standard où nous attend François. Bonjour François, bienvenue sur Inter.
Bonjour Léa, bonjour Nicolas, bonjour Monsieur Cohn-Bendit. Monsieur Cohn-Bendit, je voudrais savoir si vous n'êtes pas en colère après Emmanuel Macron, le président peut-être le moins écologique depuis les 20 dernières années, et qui arrive, alors que l'écologie, il n'en avait rien à faire pendant la campagne. Sa seule intervention marquante, c'était le programme d'Europe Écologie Les Verts. Je me suis arrêté aux lignes sur le nucléaire, et ça faisait rire les chasseurs. Se cache derrière l'écologie, alors qu'il ne fait rien. Il arrive juste à donner l'impression que l'écologie, c'est contre les gens les plus pauvres, alors que l'écologie, ceux qui souffrent le plus des transformations écologiques catastrophiques, c'est les gens les plus pauvres. Et que finalement, ce qu'il faut qu'ils fassent, c'est qu'ils réagissent rapidement pour que l'écologie soit pour les gens et pas payée par les gens les plus pauvres.
Merci François pour cette question. J'y ajoute, via l'application de France Inter, celle d'Olivier. Dany, si tu es, il vous tutoie, toujours sensible à l'écologie, tu devrais d'abord être atterré par l'abandon annoncé de la taxe carbone pour la seconde fois après l'écotaxe. Je vous livre, Daniel Cohn-Bendit, les deux questions.
Alors, premièrement, moi je suis pas d'accord, mais ça serait trop long d'y répondre, qu'il n'en a rien à cirer de l'écologie. Je crois que la transition écologique est une des choses les plus difficiles. Ça se voit partout. Aujourd'hui, il y a une conscience. On peut dire qu'il ne va pas assez loin, ça on peut toujours le dire. Il a compris le problème central du réchauffement climatique. Il a une autre interprétation parce qu'il est pro-nucléaire. Mais la Fondation Hulot, il y a encore quelques années, n'était pas contre le nucléaire. C'est une évolution. Donc, je veux dire, c'est pas... Il y a des scientifiques qui sont absolument... dont le problème central, c'est le climat, mais qui ne sont pas anti-nucléaires. Donc, c'est un débat qu'on peut avoir. Donc, moi, je crois qu'il a des idées. Et je réponds à la deuxième question. Ça, c'est dramatique. Et c'est vrai que Europe Écologie sont les seuls à avoir été hier à ne pas demander l'abrogation de la taxe. Je dis que c'est juste théoriquement, mais dans la situation actuelle, il faut calmer le jeu pour remettre sur la table toute une série de mesures sur la transition écologique. Et je finis, la transition écologique sera difficile pour tout le monde. Moi, j'ai toujours dit dans les campagnes électorales, je m'excuse, si vous votez pour un parti normal, ils vous diront votez pour nous, ça sera plus facile. Je dis si vous votez pour les écologiques, j'ai toujours dit votez pour nous, ça veut dire que ça va être beaucoup plus compliqué.
Guy est en ligne, bonjour, vous êtes médecin, bienvenue.
Bonjour et merci pour vos émissions, toujours aussi intéressantes. Je suis âgé de 76 ans, donc j'ai connu 68. Et quand j'entends Daniel qui dit qu'il n'a pas de nature, je suis désolé, il en a une grande lucidité. Et ma question est la suivante, puisqu'on va mettre à l'épreuve sa lucidité sur le mouvement étudiant actuel, qu'est-ce qu'il préconise? Est-ce qu'il peut le filtrer et éviter de mettre de l'huile sur le feu?
Vous pensez sans doute au lycée, un peu plus d'une centaine qui commence à se mobiliser avec des blocages. Daniel Cohn-Bendit, que répondez-vous à Guy? Quel conseil?
Moi, le conseil que je donnerais, pas aux lycéens, mais au gouvernement, c'est-à-dire... Il y a des mesures qui ne sont pas comprises. Par exemple, par les lycéens et les étudiants, ils veulent augmenter aujourd'hui les prix d'inscription pour les étudiants étrangers. Comme si c'était que des riches qui venaient. Ce n'est pas vrai. Il y a des riches. Et c'est vrai qu'il faut trouver une solution pour que les riches payent. Mais il y a des jeunes étrangers qui viennent en France de familles moyennes pauvres de pays africains ou je sais d'où, pour qui ça serait ou du Maghreb, ça serait dramatique, ils ne peuvent pas payer cela. Donc, moi je crois que ce gouvernement doit apprendre à négocier avec les corps intermédiaires et aussi bien dans l'université. Je crois que c'est ça. Donc, moi, si vous voulez, il y a des revendications des lycéens que je peux partager, il y en a où je suis pas d'accord, c'est leur droit d'avoir des revendications qui ne me plaisent pas, moi.
Une question d'Éric sur l'application France Inter pour essayer de caractériser à la fois le mouvement et le moment. Moins de 200 lycées mobilisés, ça représente 5% du nombre total des lycées en France. 500 000 gilets jaunes représentent moins de 2% de la population active d'aujourd'hui. Comment peut-on comparer ce mouvement à la mobilisation de plus de 7 millions de personnes durant une grève générale de 2 semaines en 1900 1968, sur la comparaison historique, c'est un mouvement incroyablement plus petit, dit notre auditeur aujourd'hui.
Avec les réseaux sociaux, avec les sondages qui disent il y a 80-90%, c'est par délégation. Déjà, on l'avait vu par la grève.
Les chaînes d'infos.
Et je vais en venir, je vais revenir. Mais on a un phénomène quand même aujourd'hui avec ces chaînes qui tournent en toi. C'est-à-dire que vous avez, moi c'est Schneiderman, je crois, qui avait fait une très bonne chronique où il a expliqué, on est complètement fasciné. Et vous aviez samedi, pas le dernier samedi, il y a 15 jours, il y avait deux événements en France, à Paris. Il y avait une manifestation très dure de 5000, 8000, allez, disons, gilets jaunes. Il y avait 25 000 à 40 000, je sais pas, personnes qui manifestaient contre les violences sexuelles. Vous en avez vu une image à la télévision, un micro-trottoir. Madame, pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous êtes contre les violences? Où est-ce que vous les avez vécues? Parce que il y a que les riches qui font des violences sexuelles. De toute façon, il y a que ceux d'en haut qui font les violences sexuelles. Donc, d'un problème de la société française, de la société espagnole, de toutes ces sociétés. Et là, personne n'en parle. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec ces images qui tournent en boucle, c'est une sélectivité incroyable de la réalité. Pendant que nous, on parle, il y a presque une guerre en Ukraine. Pendant que nous, on parle, le massacre au Yémen continue. Mais ça, plus personne n'en parle. Et c'est dramatique. C'est vrai que de la guerre en Ukraine, ou des conflits en Ukraine, la majorité des Français n'en ont rien à cirer. Mais pour la sécurité des Français, de tout le monde, ça, c'est quelque chose de fondamental.
Daniel est au standard. Soyez le bienvenu. Bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
Je voulais faire une remarque. Moi, j'ai 65 ans, je suis chirurgien, fils d'ouvrier. J'ai fait mes études en France grâce à la République. Et ces études m'ont permis de faire toutes mes études et d'être aujourd'hui chirurgien spécialiste. Ce que je voulais dire, c'est que dans mon parcours, les événements m'ont permis également de pouvoir aujourd'hui payer l'ISF. Je voulais intervenir sur ce sujet-là. J'ai payé l'ISF et je suis révolté par le fait que on puisse imaginer que les plus grandes fortunes françaises puissent investir dans l'économie en pensant sur la bonne volonté des gens. Et je considère qu'il ne faut pas être incitatif, mais l'imposer. J'ai moi-même investi 50% de mon épargne dans des sociétés qui ont permis en 2 ans d'embaucher 60 personnes.
Ouais, donc la loi est plus efficace que la morale, en quelque sorte, si je vous comprends bien. Daniel Cohn-Bendit. Merci Daniel.
C'est toute l'idée des taxes écologiques. C'est toute l'idée que, et c'est vrai, il y a une grande, en Allemagne, il y a des scientifiques ont sorti, il faut augmenter le prix de l'énergie. Il faut, sinon on s'en sortira pas. Mais ce monsieur a raison. Dans la situation sociale actuelle, je suis pour rétablir, que ça s'appelle l'ISF vert, je suis pour investir dans la transition écologique, je suis pour, c'est une mesure d'égalité, et donc j'espère que le président de la République donnera des perspectives qui vont au-delà du moratoire. Si c'est que le moratoire, les enfants, c'est pas la peine de se lever demain matin.
Une dernière pour la route, c'est Cédric qui vous pose la question, taquine. Dis-moi, Dani, qu'est-ce que ça fait d'être de l'autre côté de la barricade ?
Écoute, moi, je te dis une chose. D'abord, camarade Cédric, je suis allergique au jaune. Pour des raisons personnelles. Je peux pas mettre quelque chose de jaune. Peut-être les gens comprendront.
L'étoile jaune, j'imagine.
Exactement. Deuxièmement, je n'accepterai jamais un mouvement qui me dit « tu passes si tu mets ton gilet, tu passes si tu signes une pétition ». Jamais. On peut me massacrer, jamais je ferai ça. Donc, je suis pas de l'autre côté, j'essaye de comprendre, mais pour moi, j'ai une angoisse terrible dans les sociétés que nous vivons, c'est que nos libertés, elles peuvent disparaître dans des mouvements autoritaires. Et que dès que je vois pointer à l'horizon, peut-être que je suis complètement malade là-dessus et que je fonctionne pas bien, mais quand je vois pointer la moindre perspective totalitaire, je ne suis pas de l'autre côté de la barricade, je suis du bon côté de la barricade.
Merci Daniel Cohn-Bendit.